si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Joséphine va nous raconter sa vie.
Je voudrais vous raconter cette vie en chantant. Vous permettez, je voudrais vous le raconter.
Dites-nous, Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine. Dites-nous, Joséphine, quel est cet émoi quand toi je divine. Quelle joie pour moi sera.
Bonjour à tous. Le 30 novembre prochain, pour la première fois en France, une femme noire va entrer au caveau des grands hommes et des grandes femmes, le Panthéon. Cette femme, c'est bien sûr Joséphine Baker, première grande icône noire du XXe siècle, immense artiste, à la fois chanteuse, danseuse et comédienne, mais aussi inlassable militante antiraciste et résistante contre l'Allemagne nazie. Car la vie de Joséphine tient finalement plus du roman d'aventure, voire d'espionnage, que du conte de fées. Un roman dont nous allons cette semaine feuilleter les pages et où la devise nationale, liberté, égalité, fraternité, s'incarne à chaque instant de son existence. Il y a quelques années, Sarah Lefebvre nous avait emmenés pour une série radiophonique à travers les mondes et les vies de Joséphine. Aujourd'hui, alors qu'elle entre donc au Panthéon, on vous propose une nouvelle version de ce voyage. Un voyage qui va nous emmener du Missouri aux scènes de Broadway en passant par le Paris des années folles, Casablanca en temps de guerre ou le château d'Emiland, situé dans l'ouest de la France, notre première étape. En son temps, Joséphine avait baptisé l'Emiland capitale de la fraternité universelle. Aujourd'hui, le château est devenu un musée et dans le village du Périgord, on croise encore des habitants qui ont connu la grande Joséphine.
Oui, je cherche Georgette.
C'est là. Voilà Georgette.
Bonjour.
Bonjour.
Vous habitez juste en bas du château de Joséphine, alors?
Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Depuis tout le temps, puisque c'était la maison familiale. Là.
Vous êtes née là, quoi?
Je suis née là, oui, il y a 82 ans.
Vous l'avez voilà. Vu grandir, ce village, alors?
Ah oui, je l'ai vu grandir et se métamorphoser complètement. Parce que, avant, Joséphine, c'était pas du tout comme ça. Ce n'était que des petites propriétés. Et donc en 1947, elle avait tout acheté et le village a été complètement transformé à cette époque.
Et on est en hauteur ici, on surplombe toute la vallée.
Oui, on est en hauteur. Bon, c'est normal pour un château, c'était souvent sur des pics ou des rochers. Et le château des Milan domine la Dordogne qui passe donc juste au-dessous. Voilà, et donc Joséphine avait eu un coup de cœur pour ce château-là, voilà. Alors vous voyez que la statue, la place Joséphine, c'était là, derrière.
Et donc en fait, elle est représentée en Vierge Marie avec des enfants au pied d'elle.
Oui, oui, tout à fait. Voilà, ici, vous voyez, avec des petits-enfants, c'est Sainte Joséphine. Elle a été bienfaitrice pour beaucoup de choses et de personnes dans le village et aux alentours, puisqu'elle avait pris déjà énormément de personnel. Lorsqu'elle est arrivée, elle a déjà fait goudronner les routes, qui ne l'étaient pas ici. Et elle avait pensé ouvrir donc le restaurant, qui maintenant n'appartient plus au château non plus, qu'on appelait Loutornoli. Elle donnait des spectacles, elle chantait, et donc ça attirait beaucoup de monde de la région, mais pas seulement, parce que les gens venaient de Bordeaux, de Périgueux, Bergerac, de Limoges, pour voir Joséphine. Et là, sur cette place, il y avait une fontaine, c'était le dog bar, pour les gens qui arrivaient avec des chiens.
Voilà. Pour qu'ils puissent boire dans la fontaine.
Qu'ils puissent boire dans la fontaine. Et en face, il y a un autre bâtiment.
Donc de l'autre côté de la place,
voilà,
anciennement
c'était
place.
C'était la mairie, donc, qui était là-bas.
La mairie de Joséphine.
La mairie de Joséphine.
Mais c'était elle le maire?
Non, mais je ne sais pas pourquoi elle avait voulu ça, la mairie. Elle voulait représenter un village complet, avec tout ce qu'il fallait. C'était son village du monde.
Nous avons trouvé un petit hameau qui s'appelait Les Milandes. tout en ruine, sans pavé, sans route, pas de lumière, pas d'électricité, pas de l'eau. Tout le monde à cette époque descendait à la Dordogne pour laver le linge, etc. Et alors, j'ai pris cette château. Les gens n'aiment pas entendre le mot château. Pourtant, les enfants apprennent dans le livre de contes de fées un château. En plus de cela, ils sont en rêve devant des châteaux.
Et donc c'est avec moi que vous allez faire donc la visite de ce château. Alors si vous voulez bien, on va s'avancer juste un petit peu ici.
Vous êtes en quelle classe les enfants?
CM1.
Et alors vous avez un peu travaillé sur Joséphine Baker?
Oui.
Vous avez appris quoi là cette année?
Qu'elle était noire et qu'elle a été habitée en France alors qu'elle est née aux États-Unis. Et...
En vrai, elle s'appelait Freda Joséphine McDonald.
Et pourquoi elle s'est appelée Joséphine Baker alors?
Parce qu'elle a pris le nom de son mari. Elle s'est mariée plein de fois. À chaque fois, elle s'est séparée, après elle s'est remariée, elle est partie à New York.
Et après, elle est venue en Europe à Paris.
Elle a eu un fou, c'est fou. Tout le monde l'acclame,
tout le monde l'adore.
Après, elle était devenue secrétaire.
Non, de quoi?
Si.
Elle est devenue résistante.
Elle a résisté contre la guerre et... contre l'Allemagne et elle aimait qu'on la traite comme des blancs mais sauf qu'on la traitait comme des noirs.
Et sa chanson la plus populaire c'est J'ai deux amours.
L'amour, j'ai deux amours.
J'ai deux amours.
Voilà, alors on va s'avancer un petit peu à l'intérieur maintenant, si vous voulez bien.
Donc là, on est dans une première pièce, au premier étage, et dans une vitrine cubique, il y a la fameuse ceinture de banane de Joséphine Baker.
Tout à fait, oui. Et effectivement, dans cette première pièce que l'on appelle la salle du music hall, donc on va évoquer la première partie de la vie de Joséphine et de sa carrière. Alors, elle est née où, à votre avis?
En Amérique.
Aux États-Unis, tout à fait. Elle est née à Saint-Louis, dans le Missouri, le 3 juin 1906. Les États-Unis et Saint-Louis, c'était une ville qui était difficile et cruelle pour les personnes noires. Ils étaient victimes de racisme. Et donc, très tôt, Joséphine a été obligée de travailler dès 8 ans. Mais Joséphine, elle avait une passion. Donc, cette passion, c'était la danse.
Mais elle a commencé à quel âge?
Ah, son premier concours de danse, elle avait 10 ans. Donc, c'est très jeune, hein?
Joséphine Baker, pour moi, ma mère, c'est une femme que je définirai en trois mots. C'est une femme qui chante, qui danse et qui se bat.
Jean-Claude Bouillon-Baker, enfant adoptif de Joséphine, est l'auteur d'Un château sur la lune, une biographie de l'artiste.
Toute petite, déjà, elle a dû se battre pour s'en sortir. Elle a été placée chez des Blancs. Notamment, elle a été très maltraitée à un moment donné. Elle a été ébouillantée parce qu'elle avait cassé un verre. Elle dormait en bas à la cave sur une paillasse avec un chien qui était sa seule couverture et son seul ami. D'où sa passion peut-être pour les bêtes toute sa vie. Donc comment dire, elle a été construite comme ça, si vous voulez, dans le sens du sacrifice, de l'effort, etc. Donc c'est quelqu'un qui est doté très rapidement d'une énergie dans ce sens-là.
Et de quelles origines sont ses parents à Joséphine?
Alors ses parents, évidemment, sa maman Carrie McDonald, que j'ai connue, dont ses propres parents étaient dans les plantations. On attribuera la paternité de Joséphine à Eddie Carson, un batteur de la ville de Saint-Louis, qui était ce qu'on appelait un spinach. Spinach, c'est parce qu'on donnait des noms comme ça à toutes les couleurs de peau. Et il avait cette peau effectivement un peu olivâtre. C'était un noir, mais d'origine espagnole. Mais disons que le Missouri n'était pas le Mississippi, mais Joséphine a eu affaire, a été témoin, comme des milliers d'autres noirs, des émeutes raciales en 1917. Et elle a découvert devant elle le visage de la haine. On a dénombré nombre de femmes éventrées qui attendaient des bébés, des hommes lynchés aux lampadaires, etc. Enfin, c'était ce qu'appelait le race riot. Donc c'est quelque chose qui est gravé dans la mémoire de cette petite fille noire. Et même si elle n'est pas du plus noir, le noir le plus profond comme peau, mais elle est ce qu'on appelle une brown skin, une peau sombre. Et évidemment, Joséphine, à bois de Joséphine Baker plus tard, elle revendiquera toujours sa négritude, entre guillemets, sa négritude au sens où le défendait Aimé Césaire. Quoi.
C'est très intéressant de voir la façon dont la ségrégation raciale est ressentie par cette petite fille. Mais ce qui va sauver Joséphine, et ça on s'en aperçoit presque en creux, c'est qu'elle découvre très jeune aussi le monde du spectacle.
José-Louis Boquet, scénariste et co-auteur du roman graphique Joséphine Baker, paru chez Casterman.
De voir ces gens qui l'amusent, qui dansent, qui chantent, qui jouent, ça c'est la grande première passion de sa vie. Tout de suite, est-ce que c'est une sorte de don de mimétisme ? Elle a envie de faire la même chose. Elle a envie de faire la même chose chez elle. Et elle monte presque une petite salle de spectacle dans la cave de ses parents, où elle oblige ses copains et ses frères et sœurs à venir l'applaudir et la voir. Elle se déguise dans des robes volées à sa grand-mère. Et là, en fait, c'est là que tout commence. Elle devient danseuse, c'est-à-dire que tout à coup, elle se construit son propre destin qui est hors de sa communauté. Elle va quand même faire partie du premier spectacle conçu, joué, inventé par des Noirs américains. Hein, Shuffle Along, qui est le premier spectacle auquel elle participe, la première troupe qu'elle accompagne. C'est un spectacle mixte. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit des Blancs se précipiter très officiellement pour aller voir des Noirs jouer et chanter. Donc elle a quand même aussi, là encore sans doute inconsciemment, la prise de conscience que tiens, que les choses peuvent changer.
If you've never been found by a brown skin, you've never been bound at all. For the vamp in this vamp is a brown skin. Believe me now, that ain't nose tall. A high brown gal will make you break out of jail. A chocolate brown will make a tadpole smack a whale. A pretty sealskin brown, I mean one long and tall, will make the silent snake out in the desert bowl. If you never been vamped by a brown skin, you never been vamped at all.
Joséphine va intégrer cette troupe, donc elle restera à New York. Et c'est à New York, à ce moment-là, il y a une jeune femme de 35 ans qui s'appelle Caroline Dudley, partie de France mandatée par André Davenne, qui est le patron du Théâtre des Champs-Élysées. Parce qu'André Davenne est en panne d'inspiration, il vient de connaître deux succès monumentaux à Paris et deux scandales en même temps, c'est les ballets russes et les ballets suédois. Mais là, il n'a plus rien sous la main. Et Fernand Léger lui dit, donne-leur des nègres à Paris, il n'y a que ça, et tu verras qu'ils aimeront. Donne-leur des nègres, c'est-à-dire donne-leur du charleston, du jazz. Donc Caroline Dudley se retrouve à New York, Harlem, et elle fait son marché quasiment. Donc elle va prendre Ciné Béchette, qui a déjà connu la France, qui est un peu plus âgé que Joséphine, et qui demeurera toujours une sorte de grand frère de Joséphine.
Un grand clarinettiste saxophoniste américain.
Ah oui, bien sûr, ah bah oui, pour ceux qui ne savent pas, il faut écouter Petite Fleur, etc., etc., Ciné Béchette. Donc Ciné qui va la convaincre aussi de venir en France, qui va, enfin, elle est un peu hésitante, c'est normal, elle se demande si on va l'aimer, etc., etc. Et puis surtout, elle louche sur scène, elle ne fait jamais les choses comme les autres, de telle sorte que les autres la surnomment bientôt le singe. C'est comme ça qu'elle est moquée par ses petites copines. Néanmoins, c'est comme ça qu'elle sera aussi remarquée par Caroline Dudley un soir au Plantation, donc qui est un grand cabaret de New York et qui fait concurrence au Cotton Club.
Et là, Joséphine, après maintes hésitations, arrive sur un paquebot qui l'emmène tout droit à Cherbourg.
Et il pleut ce jour-là, il pleut. Lorsqu'elle arrive avec ce petit paquebot qui est quand même réservé en grande partie aux Blancs, le Berengaria, qui n'empêche pas évidemment d'embrasser Paris comme la France, comme la terre promise, dès qu'elle arrive à Cherbourg. C'est une gare maritime magnifique, Art déco, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Les premiers pas de Joséphine sur la terre de France.
Quand je suis arrivée en France 1924, comme vous le savez, je suis venue sur un paquebot. Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Et qu'est-ce qui vous avait décidé à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique ?
Eh bien, monsieur, parce que je savais qu'en France, j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
Est-ce que La Revue Nègre a été votre premier spectacle à Paris ?
C'était ma toute première, monsieur. Et ça, comme vous le savez, ça a fait une révolution à Paris dans l'art nègre. Puisqu'avant ça, on ne connaissait pas ce que c'était, à part de quelques statues de temps à autre, mais l'art de jazz et tout ça était tout à fait commencé par La Revue Nègre.
C'est une explosion en une soirée, Joséphine. Comme disait une grande critique américaine, « Overnight, she became a sensation ». En une nuit, elle est devenue un personnage extraordinaire. Une nuit, simplement, cette nuit.
Sa première représentation de La Revue Nègre.
Exactement. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine ? Évidemment, il n'y a pas d'archives filmées, mais c'est décrit par les grands critiques de l'époque, qui sont très précieux, mais qui écrivent très bien, comme Henri de Régnier, etc., dont on peut retrouver la trace, d'ailleurs. Ils disent, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Une femme qui marche sur les mains, les fesses en l'air. Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? On ne sait pas. Elle tient du kangourou boxeur. Donc elle compare à moitié animaux, un peu hybride. Ça, c'est la première intervention de Joséphine sur la scène. Et en plus, elle est habillée avec une salopette dépenaillée, toute déchirée. Elle n'a rien de sexuel et de sensuel. Mais elle est intrigante. Et alors, le deuxième tableau, c'est à la fin du spectacle où elle apparaît à ce moment-là, pratiquement nue, elle a juste des plumes d'autruche aux chevilles, aux poignets, et juste un cache-sexe, à peine un cachet. Et là, elle danse une danse incroyable avec son compagnon de danse, qui s'appelle Joe Alex, qui était un noir monumental, granitique, tout huilé comme ça, et qui la prend sur elle, qui la retourne, qui l'enroule autour d'elle comme un serpent, et c'est une danse sauvage, mystique, extraordinairement sensuel et qui laisse de pétrifier des stupéfactions le public qui se partagera en deux, ceux qui sifflent et ceux qui applaudissent, évidemment.
Mon premier soir, je ne savais pas si j'avais du succès ou pas parce que les gens, la moitié de la salle criait embossé. Et j'avais su après que c'était ça qu'il disait. Et ceux qui sifflaient, j'avais cru, moi, que c'était du succès. Et après, j'ai compris que c'était une catastrophe. Et ceux qui criaient bravo, c'était des jeunes, parce qu'eux trouvaient que c'était, comme vous dites, un nouvel style. À cette époque, je ne chantais pas du tout. J'ai dansé sur ces airs-là. J'ai dansé sur « Yes, sir, that's my baby »,« Yes, we have no bananas »,« Charleston », c'est moi qui a apporté le Charleston, et « Black Bottom », et toutes ces danses frénétiques de cette époque.
Joséphine a la chance extraordinaire, mais elle ne le sait pas, c'est de tomber, d'être immergée tout de suite dans le chaudron artistique parisien, où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un scandale. Parce qu'on sort de la guerre de 14-18, il ne faut pas oublier, depuis quelques années, mais enfin... On ne veut plus entendre parler de la guerre. Et alors, tous les ismes pullulent, le surréalisme, le dadaïsme, le futurisme. Et qui c'est qui provoque les scandales ? Mais ce sont les Picabia, les Cocteau, les Picasso, etc. Mais voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Ce qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui, quand on s'y intéresse un peu à ce spectacle, à cette Revue Nègre et à cette époque, en général, on est en plein dans les années folles, à Paris, etc. Est-ce que... on tourne en dérision ce point de vue colonialiste ou est-ce que c'est vraiment du premier degré ?
C'est complètement du premier degré. Au même moment, je ne sais pas si c'est en 1925, mais en tout cas, il va y avoir l'exposition universelle très peu de temps après. Tout de même, on exposera des villages indigènes avec des Noirs. On l'a déjà fait juste avant le siècle. où les gens venaient comme dans un zoo. C'était la France vraiment coloniale, mais la plus dure qui soit, la plus exclusive. Donc, et Joséphine, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends dire ça de temps en temps, hein, surtout par les Noirs d'ailleurs, qui demandent, mais est-ce qu'elle était consciente quand même, qu'elle servait quelque part, comme si, voilà, elle acceptait. Je dis, ben non, elle avait 19 ans, elle venait d'un pays où elle venait de subir elle-même le racisme, mais elle ne connaissait pas l'histoire de France, elle ne connaissait pas les... Bon, même si elle voyait les choses autour d'elle bouger, se métamorphoser. Mais enfin, de là à apprendre, c'est un peu plus tard. C'est évidemment, c'est la guerre qui va la transformer complètement, la conscientiser, si je puis dire. Mais là, c'est une jeune starlette, une jeune star, enivrée de son succès, de ces 10 ans que constituent les années folles, quoi. Elle était adoptée très vite, et elle a adopté très vite Paris. C'est-à-dire, elle s'est tout de suite immixée dans le chaudron parisien, mais pas seulement sur le plan artistique, sur le plan populaire aussi, parce que il y a l'envers du décor à Paris. Il y avait beaucoup de pauvres, hein, et elle participait au poteau-feu des pauvres dans les arrondissements. Alors là, il y a plein de photos qui en témoignent, etc. Mais d'une manière pas du tout contre quelque chose. Ça, c'est le fond de Joséphine Baker, quoi. Toujours déjà rendre déjà au centuple ce qu'on lui a accordé. Et évidemment, je ne cache pas que vieille la France, elle aura cette reconnaissance éternelle quand même. La France a accueilli les bras ouverts, comme d'autres émigrés. La France a pris dans ses bras Joséphine. C'était l'enfant gâté de Paris, quoi. C'est une histoire d'amour merveilleuse et immuable entre Joséphine et Paris.
Paname, j'ai su garder pour toi comme un bouquet de joie mes chansonnettes. Paname, avec mes deux amours, il a suffi d'un jour pour ta conquête.
Eh bien, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense, sans que ça ne serait pas prétentieux de dire que je suis l'enfant adoptif de Paris. Parce que, naturellement, j'étais tout à fait seule. J'étais évadée de chez moi, de ma maison, ma famille, pour venir à Paris. Car je savais qu'à Paris, je trouverais mon chemin.
Est-ce que vous vous sentiez dépaysée à Paris?
Au contraire, monsieur. Pensez-vous, personne ne peut se sentir dépaysé à Paris. C'est pour cela que tous les étrangers viennent ici.
Comment viviez-vous, vous, à cette époque? Où habitiez-vous?
Où ça?
À Paris.
À Paris.
Quand vous êtes arrivée?
Eh bien, dans un pensionnat de famille. Parce que j'étais mineure et c'était nécessaire, c'était défendu d'habiter dans les hôtels.
À Montmartre?
À Montmartre et ailleurs. Moi, j'habitais un petit peu partout.
À Montmartre, Joséphine Baker va d'ailleurs ouvrir son propre cabaret, chez Joséphine. Situé à deux pas du Moulin Rouge, ce club sera un repère pour la communauté afro-américaine, mais aussi antillaise. À cette époque, Joséphine a seulement 20 ans, mais elle est déjà une star. Après quoi, elle va s'offrir une splendide villa au Vésinet, non loin de Paris, où elle va vivre avec son compagnon et impresario Pepito Abatino, mais aussi son fameux guépard, Chiquita. La dame est excentrique, mondaine, et croque la vie et les hommes sans tabou ni frontières. Puis à partir de 1940, alors que la guerre gronde, Joséphine décide de s'installer en Dordogne, au hameau des Mirandes. Les lieux vont très vite être baptisés Milandes, car la maîtresse de maison en bonne anglo-saxonne ne sait pas prononcer les R. Aujourd'hui ouvert au public, le château appartient désormais à la famille d'Angélique de Saint-Exupéry. Et depuis 10 ans, cette passionnée court les ventes aux enchères pour mieux raconter toutes les facettes de Joséphine Baker.
Pour moi, Joséphine, c'était celle qui avait chanté « J'ai deux amours » et qui avait adopté 12 enfants. Voilà. Quand on est en Périgord, on sait qu'elle a adopté des enfants. Et puis, je ne connaissais pas, finalement, toute sa vie, et notamment son engagement pendant la guerre, qui me fascine totalement. Voilà. Donc c'est pour ça que dans cette pièce, effectivement, qui est ouverte au public depuis 2011, j'ai voulu toute une scénographie basée sur son engagement pendant la guerre.
Donc on a plusieurs médailles qui sont exposées là. La médaille de la résistance française avec Rosette, médaille des services volontaires dans la France libre, la croix de guerre.
Et la Légion d'honneur.
Et la Légion d'honneur, la fameuse Légion d'honneur.
Ce sont ses propres médailles. Et donc, c'est Akio qui me les prête, Akio Bouillon,
qui est l'un des fils de Josephine Baker.
Donc on a des postes radio, un rétroprojecteur qui date de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est sur la partie droite.
C'est la partie droite.
Et donc après, on a une tente US kaki posée à terre avec un fusil.
Oui, un fusil Bren, en fait. C'est une arme qui a été parachutée en Haute-Vienne, comme le Sten qui est dans la vitrine. Il y a trois vitrines. Et en fait, elle cachait des armes au château, dans la cave. Et ce qui est incroyable, c'est que dès qu'on a acheté le château, j'ai des gens qui m'ont appelé en me disant, mais vous savez, nous, mon mari était dans la résistance avec Josephine Baker et il venait chercher des armes au château. Donc je me suis dit, il faut que je remette des armes. Et quand les gens rentrent ici, d'abord, c'est une des pièces où il reste le plus. Donc je me dis que j'ai réussi ma mission de présenter Josephine. Il la découvre, en fait, sous une autre personnalité, un autre jour, son engagement pendant la guerre.
Alors, de quelle façon va-t-elle s'engager ? Elle va offrir ses services en tant que, comment dire, une grande artiste qui peut entrer dans les ambassades, qui peut glaner des renseignements et qui peut les faire sortir, si vous voulez. On n'est pas encore dans la guerre pleine. On est en 39, c'est qu'en 39 et 40, il y a eu quand même un an ce qu'on appelait la drôle de guerre. Donc, elle va chanter entre-temps sur la ligne Maginot avec Chevalier, etc. Mais Joséphine proclame son amour de la France, son don de servir, son envie de participer. Au deuxième bureau, on est un peu méfiant. Au deuxième bureau, c'est le service du contre-espionnage sur les Français. Ils vont la tester et ils vont lui donner un rôle qui est tout simple, celui effectivement de glaner des renseignements dans les ambassades. Ce qu'elle va faire, elle sortira les renseignements, reproduira ça à l'encre sympathique sur ses partitions et les partitions partiront aux États-Unis ou à Londres. Voilà, c'est comme ça que s'est fait au début le travail de Joséphine.
Et l'encre sympathique, c'est cette encre qui est transparente, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il faut la rapprocher de la lumière d'une bougie.
Exactement, elle ne s'efface pas, mais elle se rapproche que si on le passe derrière un rideau devant un rideau de lumière. Donc c'est romanesque totalement. Et pourtant, c'est incroyable, mais ça existait.
C'est moi qui suis ça. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante.
On ne peut pas imaginer une seconde que Josephine Baker puisse être dans la résistance. Donc elle passe inaperçue. Elle est une excellente comédienne aussi. Quand les Allemands viennent ici, ils frappent à la porte et ils demandent Joséphine. Elle dit, mais écoutez, c'est moi, messieurs. Nous voulons voir Monsieur Mallory. Monsieur Mallory, c'était son voisin, qui était forgeron, mais qui était dans la résistance. Et alors, elle fait mine de pas trop comprendre. Elle avait quand même un fort accent américain qu'elle va forcer sur son accent en disant « Mais je ne comprends pas. Monsieur, la Mary, ce n'est pas ici. Il faut aller là-bas, à Castelnau. » Et en fait, elle les envoie dans Castelnau à la mairie, ce qui permet à tous ses amis résistants et à son voisin de quitter les Milandes et de partir dans le maquis. Parce que ce n'était pas possible. Ils auraient été fusillés tout de suite.
Parce qu'elle cache des résistants dans le château aussi.
Voilà, elle cache des résistants dans le château. La maison est quand même assez grande. Enfin, elle n'est pas si grande, mais elle est tarabiscotée. Donc, on arrive à se cacher dans des endroits sans comprendre quand on est au rez-de-chaussée et qu'on monte et qu'on ne connaît pas la maison. C'est très difficile de s'y retrouver, en fait. Et Joséphine va rester au Milan simplement de janvier 40 à octobre 40. Elle entend l'appel du général de Gaulle. Elle est au Milande, on est le 18 juin 40. Et en fait, elle ne sait pas qui est ce général, elle entend cette voix et elle a envie, évidemment, de le suivre, de le retrouver et de tout faire pour que la France soit libre.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle part ensuite au Maghreb, qu'elle quitte la France.
Voilà, alors là, il y a une période où elle est obligée d'honorer ses contrats. Elle chante, c'est une chanteuse avant tout, et elle utilise évidemment son personnage de chanteuse pour passer les frontières, les zones libres, les zones occupées. Elle signe des autographes aux Allemands, là, en 40, c'est quand même drôle. Et 41, elle part dans le sud, elle va chanter à Marseille, donc elle continue sa carrière comme si de rien n'était. Elle va dîner chez Mussolini quand même en 41, ce qui est quand même hallucinant. Elle ramène des informations Elle revient à Marseille, elle termine son spectacle La Créole. Elle quitte in extremis en fait la France parce qu'elle commence à être recherchée. Et donc elle se retrouve au Maghreb, à Marrakech. Alors là, c'est difficile parce qu'elle a des occlusions intestinales à répétition. Elle est très fatiguée. Elle aurait pu y passer à plusieurs reprises. Elle est restée alitée un an. Elle va aussi à l'hôpital à Casablanca. Et là, depuis cet hôpital, elle rencontre des généraux qui continuent à la renseigner. Ils se renseignent mutuellement. Et fin 1942, les Américains, les Alliés débarquent à Marrakech. Et c'est là où, malgré ses problèmes de santé, elle chante pour les troupes alliées. Et elle met un point d'honneur à chanter pour les Noirs et les Blancs. Alors que les Américains, là, lui disent « Non, non, madame, pas possible d'avoir les Noirs dans le public. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a cette idée de mettre dans ses contrats des clauses de non-discrimination pour le public. Elle veut les Noirs et les Blancs qui se mélangent. Ça, c'est, je trouve ça extra. Et alors la pauvre, après, par la suite, elle va perdre des contrats à cause de ces clauses.
Je vais faire un effort et je vais chanter sur deux notes. Je te dis que je t'aime. Sur trois notes, je te donne mon cœur. Sur quatre notes, je développe le thème, et puis toute la gamme, je chante mon bonheur sur deux notes.
Les hommes, les femmes aussi je pense, mais les hommes évidemment étaient subjugués par Joséphine.
Katell Müller, dessinatrice et co-auteure du roman graphique Joséphine Baker, paru chez Casterman.
On lui a prêté aussi beaucoup plus d'aventures qu'elle n'en a certainement réellement eues. Mais celles qui sont avérées, bien sûr, ce sont ces grandes histoires, que ce soit son tout premier mari, Willie Baker, aux États-Unis, dont elle a gardé le nom, bien sûr, ou que ce soit peut-être son mari Jean Lyon, avec lequel elle a pris la nationalité française en 1937, et puis son dernier mari, évidemment Joe Bouillon, certainement le plus important, avec lequel elle a créé la tribu arc-en-ciel. Après, ce sont, oui, comme une femme libre, des histoires plus ou moins longues, plus ou moins fortes. Je crois encore plus que séductrice, elle était juste séduisante parce qu'elle était ce qu'elle incarnait. Elle incarnait la liberté et la sensualité, de toute façon. Donc c'est vrai que tous les gens qui l'approchaient étaient subjugués aussi par cette liberté de Joséphine. Elle a eu une histoire avec Hubby Black, par exemple, le grand musicien pianiste de jazz à New York. Son histoire avec Pepito, bien sûr, qui était son premier manager, son premier homme.
Qui se faisait passer pour un ambassadeur italien.
Le comte Pepito, voilà, alors que c'était plutôt un peu un mafioso, mais qui a été formidable avec elle et qui s'est vraiment comporté en gentleman et puis en vrai homme d'affaires, parce que c'est vraiment lui qui a fait de Joséphine Baker, la danseuse internationale. Il l'a vraiment coachée, on peut le dire, ça. Je crois qu'il est même mort de chagrin et d'amour, parce qu'à un moment donné, elle l'a un peu jeté quand il n'était plus en phase. Voilà pour les histoires. Après, bien sûr, il y a eu le capitaine Apté pendant la guerre, et puis jusqu'à arriver au dernier en date, qui est le fameux Joe Bouillon, le grand musicien, chef d'orchestre, qui était peut-être certainement de tendance sexuelle différente, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une relation avec Joséphine, je pense. Il devait être bi. En tout cas, c'était quand même un mariage d'amour, ça c'est clair, et ils avaient un projet commun.
Ici, le château des Mirandes. Ce château est situé sur la rive gauche de la Dordogne, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Sarlat. La mariée est vêtue d'une robe toute simple en toile bleu ciel, ornée d'orchidées, avec cordelière en argent. Joe Bouillon est en costume de ville, complet droit, bleu marine. La cérémonie est très intime.
Le projet qu'avait Joséphine avec Joe Bouillon, c'était prouver à eux-mêmes et au monde que c'était possible, cette fraternité universelle, comme elle le disait, puisqu'elle a appelé les Milandes, donc le château et tout le domaine qu'ils avaient acheté pour créer cette entreprise, en fait. Hein. C'était vraiment une entreprise, puisqu'il y avait cette famille, mais il y avait aussi autour un cabaret, une piscine, un hôtel, un cinéma. Enfin, c'était une espèce de grand domaine touristique où ces enfants étaient élevés. C'était une façon de démontrer au monde que oui, on pouvait vivre en harmonie avec nos différences au sein du groupe, que ce soit le groupe au sens large de ces touristes qui naissent du monde entier, ces spectacles, où tout se mélangeait, un petit peu comme dans la Revue Nègre à Paris dans les années 20. Et en même temps, sur le plan privé, dans cette famille où ils avaient des couleurs différentes, des religions différentes, des origines différentes.
Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, cinq tout petits enfants, cinq orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer.
Dans ce village du monde, ce n'est finalement pas 5 enfants que va élever Joséphine, comme elle vient de le chanter, mais en tout 12 enfants, formant ensemble cette fameuse tribu arc-en-ciel. Parmi eux, Akio et Jeannot, adoptés au Japon en 1954. Après quoi, Joséphine et Joe Bouillon accueilleront Louis de Colombie, Jari de Finlande, Jean-Claude et Moïse de Paris. Un peu plus tard arriveront les petits, comme ils s'appellent entre eux, deux enfants algériens, Brahim, le berbère, et Marianne, de parents pieds noirs. Kofi, ensuite, né en Côte d'Ivoire, Mara, du Venezuela, Noël, découvert pas loin d'un soir de Noël à Paris, puis Stélina, la petite dernière, d'origine marocaine. En 2017, au Milan, Sarah Lefebvre avait eu la chance de les rencontrer à l'occasion d'une réunion de famille des enfants de Joséphine, parmi eux, Louis Bouillon-Becker.
Sa chambre, c'est celle-là, celle qu'on voit là, juste la deuxième en haut. Oui.
Elle vous parlait souvent à travers la fenêtre de sa chambre ?
Elle nous appelait parce que nous, on était souvent ici, où cet arbre-là,
c'est un arbre, un arbre très massif.
Mais qui a l'intérieur est creux. Donc nous, on était souvent dedans et on montait. Donc elle nous appelait en disant « Descendez, vous allez tomber et tout ». Mais bon, je ne vous dirai pas tous les secrets qu'on a d'enfants, toutes les bêtises qu'on peut faire. Quand on est plusieurs, ensemble, comme j'ai dit, c'était un terrain de jeu. Donc on était déjà en colonie de vacances. Donc c'est les gens qui venaient chez nous pour passer des journées. Donc pour ça, c'est vrai, c'était agréable.
Joséphine Becker voyageait beaucoup.
Oui.
J'imagine certains moments où vous restiez ici avec les personnes qui vous gardaient, et d'autres moments, vous l'accompagnez, ça se passait comment ?
Ben, on l'a accompagnée quand on était un peu plus âgé. Parce que petit, elle n'aimait pas nous prendre pour sortir. On était comme tous les autres enfants, il y avait les problèmes d'école. Même si au début, on avait des précepteurs qui venaient nous faire les cours directement au château. On avait une petite école dans le village où c'est pareil, il y avait des professeurs qui venaient pour nous donner l'instruction générale.
Pour les enfants du village ou juste pour vous les...
Que pour nous. Que pour nous. C'est vrai qu'on avait l'école pour nous. À la suite également, quand on était, que ce soit au collège ou quoi, ici, on avait des précepteurs qui venaient de différents pays ou autres, qui nous instruisaient sur nos origines, sur l'instruction religieuse. Moi, je suis catholique, mais on a été mis au courant de tout ce qui se passait dans les autres religions, que ce soit protestants, musulmans ou quoi. On est plus tolérants. On ne peut pas faire l'amalgame de tout.
Justement, comment votre mère s'est battue pour cette fraternité-là ? Comment vous, vous le ressentiez en tout cas à l'époque ? Et avec le recul, comment vous voyez ce combat ?
Ben nous, on l'a toujours vécu en entier. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais été caché. Quand elle a fait, en 63, si je ne me trompe pas, les mouvements interraciaux qu'il y a eu aux États-Unis.
La marche à Washington.
Elle ne l'a jamais caché, qu'elle partait pour ça. Pour la liberté des Noirs, les libertés générales, en fin de compte. Elle est partie au Vietnam pendant la guerre, et ça, personne n'en parle. Et souvent, quand on dit Joséphine Becker, les gens ne font pas l'association entre l'artiste, la résistante, la mère de famille, les problèmes qu'elle a eus ici, ou autre. Et ça, les gens n'arrivent pas à faire l'amalgame de tout ça. Mais, alors que c'est un tout. Et je pense que c'est ce qui l'a, entre guillemets, c'est ce qui l'a tué en fin de compte, c'est la fatigue de tout donner et bien, à un moment donné, le corps ne résiste pas, c'est comme tout.
Alors là, voilà la note de service. L'entière responsabilité de son château à partir du 10 janvier 64 et cependant toute son absence des Milan.
À monsieur Georges Pasquet, dont vous, demeurant au Manzac-sur-Verne, donc vous étiez de la région.
Oui.
Et vous étiez le majordome.
Le majordome.
Ah, voilà. Voilà.
Donc vous êtes arrivé quand en fait
En 60. J'avais 20 ans. Je suis resté pendant 4 ou 5 ans avec elle. Il fallait s'occuper des personnes qu'elle recevait, les repas, tout. Il y avait du monde, hein. C'était inimaginable. L'été, on était 125 personnels. L'été, c'était énorme. Les jardiniers, il y avait 12 jardiniers qui nous fournissaient les fleurs pour le château et tout. L'hiver, on n'était que 30, 35 personnes.
Oui. Le château était privé, c'était sans...
Ah non, mais on ne se visitait pas. Oui. Il n'y avait que le parc. Oui. Le parc, c'était tout, juste le tour et les singes qu'il y avait, les perruches, tout ça. Mais c'était tout ce qu'on visitait. Et c'était plein, le parc. Inimaginable, les gens, pour voir juste cette petite surface.
Il y avait toujours du monde.
Toujours du monde, toujours du monde. Alors les enfants, il y avait une chaîne là, entre la cuisine et le truc, parce que les gosses, les personnes leur portaient des bonbons. Alors Joséphine arrivait, elle dit « Georges, amenez-les promener dans les bois, parce que mes enfants, ce n'est pas des singes. » Alors elle se mettait en colère, elle dit « Vous allez les promener. » Alors on partait avec une femme de chambre et on allait les promener.
Et alors du coup, vous vous êtes occupé des 12 enfants de la tribu arc-en-ciel?
Oui, avec sa sœur, Margaret, elle m'aidait. Le soir, parce qu'il fallait que quelqu'un m'aide, parce que 12 gosses, il y avait les femmes de ménage, mais les femmes de ménage, elles s'en allaient, elles me laissaient toutes seules. Et le soir, ils étaient intenables.
C'était une vraie colonie, non?
Ah oui, c'était la colonie, là, attention. À table, 12 gosses, c'était la vie de château.
Yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad. Tú me besas, yo te beso, tú me miras, yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro, esto es felicidad, felicidad, es quererte a ti. Felicidad, es quererme a mí. Yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad. Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad. Tú me besas, yo te beso, tú me miras, yo te miro, me besas, te beso, me miras, te miro. Esto es felicidad, felicidad, es quererte a ti. Felicidad, es quererme a mí. Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro. Me quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad.
Si loin, si proche. Écoutez, vous voyagez.
Il y a pas photo de vous dans le château.
C'est monsieur dans le château, on vous a vu petit en photo.
À qui on?
Mais vous avez quel âge maintenant?
Ah ben moi j'ai l'âge de ton grand-père. Au moins. Non. Oui, ma belle.
Comment je m'appelle?
Il s'appelle Louis.
Moi, c'est Louis.
Est-ce qu'elle vous l'a dit quand vous avez 2-3 ans que vous avez adopté ou un peu plus tard?
On s'en est rendu compte très vite, tu sais, quand tu vois, quand tu commences à regarder tes frères et sœurs et qu'ils ne sont pas de la même couleur que toi, tu sais, tu te dis, bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Après, ce qui est bien, c'est que tu t'en fous. Tu oublies. C'est comme toi, comme
après,
pour tous.
Après, on s'adapte.
Non, c'est pas s'adapter, c'est que tu t'en fous. Complètement, tu constates que tu as, il a une couleur.
Vous avez des copains qui sont noirs ou
métis.
Ou métis. Voilà.
Joséphine Baker était à l'avant-garde du combat pour la diversité. Bon, Joséphine Baker, elle voulait tout simplement montrer que c'était possible, dans une même maison, d'avoir un enfant juif, un musulman, un bouddhiste, un chrétien, un athée, etc. et de faire de tous ces enfants-là des citoyens de la République. Elle a réussi. Donc si elle a réussi dans une petite maison, avec très peu de moyens, dans une petite famille, je ne comprends pas pourquoi un État ne réussirait pas à le faire, qui a infiniment plus de moyens que Joséphine Baker. Et je crois que la perte de Miland a été une perte importante pour la République française.
Charles Onana, journaliste franco-camerounais et auteur d'un ouvrage sur Joséphine Baker et la résistance, vient d'évoquer la perte des Miland. Ce fut un drame pour Joséphine, dont le rêve s'était mué en gouffre financier. Et en 1969, elle finira ruinée et certainement dupée par des locaux et expulsée de son château. Son nouveau refuge, pour elle et ses 12 enfants, elle le trouvera alors à Roquebrune, dans le sud de la France, avec l'aide de la princesse Grâce de Monaco. Et en 1975, à presque 70 ans, Joséphine retrouve la scène de Paris, à Bobineau, pour célébrer ses 50 ans de carrière.
Mesdames et messieurs, Miss Josephine Baker. Me revoilà Paris. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris. Dis-moi, comment me trouves-tu? Peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Rappelle-toi, Paris. Quand j'ai chanté, j'ai deux amours, j'avais fait le pari. Que cela durerait toujours. Tous ces je n'oublie pas que c'est grâce à toi si j'ai vu les vedettes et si j'ai vu mon nom sur les néons de chaque nation. Me revoilà Paris.
C'est un petit théâtre Bobineau, très chaleureux, très très bien fait. C'est le spectacle où elle a eu peut-être le plus de succès. Tout le monde est là, où tous ceux qui n'ont pas pu être là font déposer des gerbes de fleurs émues. On ne peut pas emprunter l'escalier qui mène de la loge de la concierge à sa loge à elle, tellement il y a de fleurs dans les couloirs et de gerbes. Joséphine vraiment était acclamée soir la première et la générale. 40 minutes non-stop. Vous vous rendez compte ce que c'est 40 minutes sur une scène? Joséphine, on t'aime, Joséphine. Voilà, ça clôt son existence, mais dans le plus beau des hommages, je crois qu'effectivement, si on ne peut pas dire de quoi elle est morte physiquement, d'une manière hyper scientifique, je veux dire, si on sait que c'est une commotion cérébrale, etc., et on ne sait pas ce qui l'a provoqué, par contre, c'est peut-être ce bonheur intense, énorme, parce que sur son lit, pendant qu'elle s'endort et dont elle ne se réveillera pas, il y a plein d'articles de presse unanimes qui louent Joséphine Baker. Et c'est l'hommage, vraiment l'hommage à toutes les Joséphines. Non seulement à l'artiste, mais c'est Joséphine la combattante, c'est Joséphine la rebelle, c'est Joséphine la parisienne, c'est Joséphine la femme universelle, c'est Joséphine la mère universelle. Voilà, c'est toutes ces Joséphines-là qui sont regroupées en une seule.
Le 12 avril 1975, l'étoile Joséphine s'est éteinte. Mais à sa manière, elle continue d'illuminer nos mémoires et de montrer le chemin de l'engagement et surtout de l'émancipation à toutes et à tous. Merci à Sarah Lefebvre pour ce voyage radiophonique. Merci à la Sonothèque de RFI et à Lina pour leurs archives. Merci aussi à Jean-Claude, Louis et à Kyo Bouillon-Baker. Merci également à Angélique de Saint-Exupéry du Château des Milandes, ainsi qu'à Catel et Boquet, auteur de la BD Joséphine Baker, parue chez Casterman. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Sarah Lefebvre, on vous salue et on vous dit à la semaine prochaine.
La marche du monde.